France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Frédéric Kiffer, Victorien Hodge et Olivier Dehay. Voici la deuxième émission de notre série consacrée au chef d'orchestre Lawrence Foster, dont nous suivons la discographie pas à pas au fil des années. Par exemple, les années 80, qui sont marquées pour lui par sa nomination à la tête de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Nous avons déjà entendu hier dans Rimsky-Korsakov ou dans Enesco. En 1984, la maison de disque Erato sort un disque consacré, je cite, à quelques adagios célèbres. L'adagio de Barber, la valse triste de Sibelius ou encore cet extrait de Peer Gynt de Grieg, de Grieg au matin avec son délicieux solo de flûte.
Thank you.
Au matin, un extrait de la première suite d'orchestre Pergunt d'Edvard Grieg. C'était en 1983-84, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Lauren Foster. Un orchestre avec lequel nous allons passer plusieurs instants aujourd'hui autour du compositeur Georges Enescu, bien sûr, avec sa première rhapsodie roumaine, ou encore Oedipe, je dis bien sûr, parce qu'hier je précisais que Lauren Foster, et je rappelais que Lauren Foster était un grand interprète et un grand pionnier de la défense de cette musique, lui dont les parents étaient d'origine roumaine. Nous écouterons également des œuvres de Schumann, Rodrigo, Fauré ou encore Charles Gounod. Mais voici une partition que je vous ai fait entendre avec cet interprète le 12 février dernier pour un arabesque consacré à Olivier Charlier, le violoniste enregistré les concertos de Mendelssohn, je dis bien les, avec notamment ce premier concerto. On entend très souvent, et à juste titre, le deuxième concerto de Mendelssohn de 1844, mais il y en a un précédent qui a été redécouvert au début des années 50 par Yehudi Menuhin. C'est cette œuvre de jeunesse, d'un adolescent de 14 ans, inspiré par Mozart, Haydn ou encore Carl-Philippe Emmanuel Bach. Voici le final de ce concerto en ré mineur, Olivier Charlier avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Lawrence Foster. Thank you. Charlier que nous entendions au violon avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Lauren Foster dans le final de ce premier concerto en ré mineur de Félix Mendelssohn. Monte-Carlo et Foster qui reçoivent cette année 1984 la grande mezzo-soprano Marilyn Horne avec un velouté, une chaleur de voix très, très séduisante pour un disque entièrement consacré aux airs de l'opéra français. Aubert, Saint-Saëns, Gounod, Benjamin Godard, Massenet, Donizetti avec un extrait de La Favorite ou encore Luigi Cherubini. Chez les dames, la cantatrice qui m'a le plus touché est également une amie, déclare Lawrence Foster. Il s'agit de Marilyn Horne qui offre une combinaison exceptionnelle de musicalité, de technique, de cœur et d'humour. Je l'ai souvent accompagnée, en particulier pour son opéra Rinaldo de Handel à Houston. Et je reste très attaché au disque d'air français que nous avons enregistré ensemble à Monte-Carlo pour la film Erato. Disposant de 10 minutes supplémentaires, nous avions tenté l'air de Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix, deux prises seulement, sans aucune répétition. Au vu du résultat, nous l'avons conservé au montage final. Et moi, j'ai décidé de vous faire entendre un extrait de La Grande Duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach sur un livret de Meillac et Halévy, cette grande duchesse qui affirme son amour pour les uniformes.
Le rimeo,
Quelques notes de la Marseillaise intégrées à la partition de Jacques Offenbach par Marilyn Horne. C'était un extrait de la Grande Duchesse de Gerolstein avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Lawrence Foster. Hier, nous avions entendu un extrait de la deuxième suite pour orchestre de Georges Enesco et j'évoquais la passion de Lawrence Foster pour ce compositeur, pour qui il a beaucoup œuvré, notamment dans ses années de Monte Carlo, dans les années 80. Ainsi, en 1984, il enregistre le poème roumain et les deux rhapsodies roumaines de Georges Enesco. C'est l'œuvre de ma vie, va-t-il déclarer plus tard. Et je m'y suis engagé corps et âme, notamment en enregistrant pratiquement tout son catalogue. Je le dirige sans doute un peu moins aujourd'hui, en 2009, la date de cet entretien, à l'exception de certaines symphonies qui rencontrent partout un succès énorme. J'ai pu ainsi me rendre compte que l'on adorait Enesco à Helsinki, en Finlande. C'est une musique aussi difficile et complexe que celle de Bach. Même si mes parents étaient d'origine roumaine, ma femme l'est également, je ne m'y suis véritablement intéressé qu'en arrivant à Monte Carlo, il y a une trentaine d'années. Plus jeune, c'est Bartok qui m'enthousiasmait. À l'époque, on connaissait assez mal l'œuvre d'Enesco, qui n'était défendue dans son pays natal que par des musiciens assez médiocres.
Thank you.
La Tchokarlia, l'alouette, voilà cette aire de Grigoras Dinicou, héritée de son grand-père, joueur de flûte de pan, Angelos Dinicou, la Tchokarlia, qu'on entend citer par Georges Enesco dans cette première rhapsodie roumaine de 1903, enregistrée 80 ans plus tard par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Lawrence Foster.
Arabesque, François-Xavier Chemchak. France Musique.
Nous reviendrons dans un bon quart d'heure sur Georges Enesco avec son chef-d'œuvre lyrique Édipe, toujours en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Lawrence Foster. Mais laissons-le dans ses années 80 se rendre dans la patrie qu'il avait accueillie en Europe dans les années 70, c'est-à-dire l'Angleterre. Hier, nous avions entendu certains de ses enregistrements avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Symphonique de Londres ou encore cet Orchestre Philharmonique Royal de Londres qu'il retrouve en 1987 pour accompagner la pianiste brésilienne Cristina Ortiz, élève de sa compatriote Magda Taliaferro, élève également de Rudolf Serkin, auprès de qui elle a étudié après avoir obtenu son premier prix au concours Van Cliburn. Cristina Ortiz, que nous écoutons ici dans le final du concerto opus 54 de Robert Schumann. Christina Ortiz au piano, l'Orchestre Philharmonique Royale de Londres dirigé par Lawrence Foster. C'était un extrait du concerto en la mineure opus 54 de Robert Schumann, enregistré au milieu des années 80. À cette époque, en 1985, Lawrence Foster succède à Armin Jordan à la tête de l'OCL, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, et ce pour 5 années. Et tout comme il était venu à Monte Carlo en 1980, les valises pleines de partitions de Georges Enesco, Lawrence Foster remet Enesco à l'honneur sur les bords du lac Léman. En témoigne cet enregistrement du Dixtuor de Georges Enesco, donc partition pour 10 instruments, autrement dit en gros 2 quintettes avant, 2 flûtes, un hautbois, un cor anglais, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons, tout cela sous la direction de notre héros de la semaine. Ce sont les vents de l'orchestre de chambre de Lausanne dirigé par Lawrence Foster qu'on entendait dans ce Dixtuor, un extrait de ce Dixtuor de Georges Enesco. Et nous voici maintenant au pied de cette montagne lyrique qui est Édipe, cet opéra que Enesco a conçu sur un livret d'Edmond Flegg d'après Sophocle qui a été récemment proposé par l'Opéra de Paris. C'est un retour de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans notre émission pour entendre cette partition qui a été évoquée dans le magazine Diapason en juin 2005 par Lawrence Foster. C'est Michel Garcin, le perspicace directeur artistique d'Erato qui m'a proposé des enregistrements Enesco dans les années 80. Il cherchait des répertoires que je pourrais enregistrer avec Monte Carlo. Pour moi, Enesco est une âme roumaine dans un habit français. J'étais certain que la couleur de la formation monégasque conviendrait à sa musique. Nous avions entrepris une intégrale de son œuvre avec orchestre. Mais lorsque nous en sommes venus à Édipe, Erato a hésité. Je me suis alors tourné vers Alain Lanceron, responsable d'IMI Classique en France, qui connaissait cet opéra, mais craignait que le projet soit difficile à monter. Il me promit de reprendre contact sous 2 semaines. Il m'a rappelé 15 minutes plus tard en me disant « on va le faire ». Je ne sais pas comment, mais on va le faire. L'enregistrement devait avoir lieu en 87. Pour le rôle-titre, on voulait Samuel Ramy, et pour la Sphinx, Marilyn Horne. Hélas, cette année-là, Samuel était engagé par Karajan pour Don Giovanni à Salzbourg. José Van Damme accepta, à condition qu'on lui laisse 2 ans pour étudier le rôle. Bien entendu, nous avons remis l'enregistrement en 1989. Cette fois, Marilyn Horne qui n'était plus disponible. Nous avons eu tout le temps nécessaire pour réunir une distribution idéale avec Guetta, Lipovcek, Fassbender, Baquet, Taillon. José Van Damme, le voici en Édipe, un extrait du 2e acte de cette partition de Georges Enesco. Thank you. Un extrait de l'opéra Édipe de Georges Enesco sur ce livret d'Edmond Flegg s'inspirant de Sophocle, dans lequel Édipe tue son père Laios. Édipe chanté par José Van Damme, Laios par le ténor John Ayler. On entend également la voix du berger Nicolas Gueda avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo dirigé par Lawrence Foster.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
En cette année 1989, Lawrence Foster fait donc des allers-retours entre Monte-Carlo et Lausanne, directeur musical et de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et de cet orchestre de chambre de Lausanne qu'il va retrouver en septembre 89 pour accompagner la guitariste américaine Sharon Isbin dans un classique de littérature guitaristique. Vous, je ne sais pas, mais c'est toujours avec un grand plaisir que j'entends ce premier mouvement du concerto d'Aranjuez entendu si souvent. Partition de Joaquin Rodrigo, ici enregistrée en septembre 1989 par la guitariste Sharon Isbin avec l'orchestre de chambre de Lausanne dirigé par Lawrence Foster. On assiste, c'est certain, à une certaine homogénéisation des orchestres, déclarée en 2009 Lawrence Foster. Une homogénéisation ne serait-ce qu'en raison du recrutement international des instrumentistes et des chanteurs. Mais il reste des exceptions, la Staatskapelle de Dresde, la Philharmonie de Vienne par exemple, dont on reconnaît immédiatement la sonorité. Mais en France, les orchestres ont beaucoup perdu de ce qui relevait de leur tradition nationale et c'est un problème auquel je suis régulièrement confronté. À chaque fois, il faut retrouver les couleurs instrumentales recherchées par le compositeur pour ne pas diriger Debussy comme Schumann ou Brahms. J'ajoute aussi que les orchestres français sont aujourd'hui encore capables d'un engagement, d'une chaleur, d'une spontanéité que l'on trouve difficilement ailleurs. Orchestre français, si l'on veut, il est monégasque. En tout cas, c'est l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo en 1990 dirigé par Lawrence Foster dans un extrait de Pelléas et Mélisande de Gabriel Forêt. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Lawrence Foster, a interprété le prélude de Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré, partition que le compositeur avait conçue en 1898, à l'époque où l'un de ses étudiants s'appelait Georges Enescu. Et puis, retour du compositeur roumain, qui était donc à Paris après une formation à Vienne auprès de Robert Fuchs. Georges Enescu, toujours dirigé par Lawrence Foster, qui déclarait que ce compositeur, je cite, a toujours regardé la réalité en face. C'était une conscience, une personne d'une très forte intégrité morale. Il a invariablement refusé la récupération de son œuvre ou de sa renommée par les communistes. Hélas, ils ne se sont pas gênés après sa disparition en 1955. Les morts ont toujours tort. Si l'on tarde à reconnaître pleinement son génie, c'est à cause de son indépendance d'esprit. Il n'a jamais été d'aucune coterie et n'a jamais eu peur de stigmatiser le communisme. Tout cela n'a pas favorisé la diffusion de son œuvre, même en Roumanie, où il est resté longtemps le compositeur d'une seule partition, la Rhapsodie roumaine numéro 1 qu'on écoutait tout à l'heure. Par ailleurs, sa musique est incroyablement difficile pour les interprètes. Et pas seulement d'un point de vue technique. N'oubliez pas quel virtuose du violon il fut, mais aussi d'un point de vue intellectuel, à cause de son extrême complexité. À cela s'ajoute une difficulté particulière. Vous ne trouverez pas chez Enescu cette pulsation impérieuse qui est la signature, par exemple, de Bartok. Le rythme chez Enescu est beaucoup plus fluide, plus mouvant, comme une sorte de rubato écrit. C'est d'ailleurs un des secrets de sa musique. Ce rubato perce jusque dans les diffractions harmoniques. Rares sont les mesures où le temps fort est appuyé. Il est généralement déplacé d'une manière infime par une croche ou par un autre accident. Une des indications favorites d'Enescu est « sans rigueur ». Une part importante de son langage s'appuie sur un art des transitions très souple, presque ondoyant. Cela implique de savoir respirer, suggérer une hésitation et surtout convaincre l'orchestre que les choses fonctionnent de cette manière.
Thank you.
C'est en 1905 que Georges Enesco avait conçu sa première symphonie en bémol majeur, opus 13, dont c'était le final vif et vigoureux, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Lawrence Foster en 1990. Cette année-là, Lawrence Foster se rendait à Noël, à Notre-Dame de Paris, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, afin d'accompagner la voix de Jesse Norman.
Thank you.
Le Chœur Victoria d'Île-de-France, l'orchestre de l'Opéra de Lyon, était dirigé par Lauren Foster avec la soprano Jessie Norman dans ce Sanctus de la messe solennelle de Sainte-Cécile de Charles Gounod, Sainte-Cécile, patronne des musiciens, bien entendu.
À réécouter sur francemusique.fr.